Sixième partie. Le temps était maussade, gris et bas. La neige, qui tombait sans interruption depuis 2 jours, s'amoncelait en rempart le long des trottoirs. Quelques flocons tourbillonnaient encore, paresseusement dans l'air, comme indécis de savoir où se poser. Sur les toits, de larges plaques de neige, détachées de la couche épaisse qui couvrait les tuiles, glissaient lentement sur la pente, s'arrêtaient un instant à l'extrême bord de la gouttière, puis se précipitaient dans la rue avec un fracas épouvantable, soulevant un nuage de fins cristaux blancs que le vent balayait comme une poussière. Gare aux passants, ils reculaient étonnés, puis reprenaient leur marche à la rencontre d'une autre avalanche. Au milieu de la rue, des garçons et des fillettes passaient comme des flèches, lancées sur leurs patins. Ils revenaient du collège et, pour retourner à la maison, usaient de ce mode de locomotion rapide et peu coûteux. 4 heures venaient de sonner. Comme le jour était sombre, les flammes du gaz s'allumaient déjà partout. Les vitrines des magasins s'éclairaient, les bocaux rouges et verts des pharmaciens jetaient sur la neige des reflets multicolores et brillants comme des feux de Bengale. Madeleine et Claire, vêtues de grands manteaux à capuchon qui excitaient la critique railleuse des écoliers, passaient au bras l'une de l'autre devant la maison Molaire. « C'est ici !» dit Claire en levant la tête. « Quelle belle maison, n'est-ce pas, ma reine ? Regardez ce grand balcon avec ses sculptures. Quand nous aurons tourné le coin de la rue, nous verrons si l'entrepôt est éclairé. » Une grande agitation régnait dans la cour. On transportait des plantes, des sièges. À l'intérieur, on faisait grand vacarme de marteaux. L'entrepôt, tout en fenêtres, rayonnait comme un palais de verre et aurait suffi à éclairer la rue. Tout à coup, Lyon s'élança du fond de sa niche et se mit à aboyer d'une voix joyeuse. « Il nous a flairé, » dit Madeleine. « Sauvons-nous, ou bien il y aura une reconnaissance et Luc pourrait en être contrarié. » Elles passèrent donc rapidement dans la rue voisine et montèrent bientôt l'escalier de la cousine Françoise. Celle-ci était une bonne petite femme toute ronde et fort bavarde. Elle accueillit ses parentes de la campagne avec de grandes démonstrations, les fit entrer dans sa chambre que chauffait un gros poêle et leur servit aussi le café au lait, ce symbole de l'hospitalité montagnarde. « Votre carton est bien arrivé, » dit-elle, « et il y a là je ne sais combien de boîtes qui vous attendent de la part du cousin Luc. Un jeune homme bien attentif, cousine Madeleine. Vous l'avez parfaitement élevé, quoique demeurant dans un endroit solitaire où l'on deviendrait sauvage rien qu'à entendre les sapins qui font « ou, ou » toute la sainte journée. Comme ça, vous êtes du bal Molaire. Une fameuse occasion pour cette petite de voir un peu le monde. » « Avez-vous une jolie robe, au moins ? On est terriblement élégant en ville, vous savez. Je vous donnerai un coup de main pour vous habiller, étant plus au courant de la mode que vous, sans doute. Elle est très bien, votre filleule, cousine Madeleine. C'est une petite rose. Mais la justement rehausse encore les charmes, comme j'avais coutume de dire au temps où je serrais mon corset. Nous allons aussi vous serrer puissamment, ma fille. Vous aurez une taille à tenir dans les deux mains. » « Oh non, je vous en prie !» s'écria Claire alarmée. « Je ne suis pas accoutumée à cela, je me trouverai mal, et qu'en penserait Luc ?» La grosse cousine se mit à rire. « Ne dirait-on pas qu'elle n'a jamais tiré sur son lacet, cette petite innocente ?»« Bon, bon, nous savons qu'en croire. Mais ouvrez-moi toutes ces boîtes, vos jolies affaires se chiffonnent dedans. » Claire dénoua les cordons d'une main un peu tremblante. Luc n'aurait-il rien oublié? Mais non, le bouquet d'œillets panaché de roses était bien là, couché sur un lit d'oie humide et de mousse. Les gants de soie rose pâle, les bas de soie assortis, le grand éventail blanc sur lequel était peinte une longue traînée d'œillets, la garniture de fines dentelles pour le corsage et les manches. Claire sauta de joie, puis faillit fondre en larmes. « C'est trop beau !» murmura-t-elle en cachant son visage rougissant sur l'épaule de Madeleine. « J'aurais l'air d'une petite paysanne déguisée en princesse. » La cousine Françoise mit un terme à ses effusions. « Dépêchons-nous, » dit-elle, « nous avons 4 heures devant nous, ce n'est pas une minute de trop, car il faudra sans doute retoucher la robe. » Claire tira sa modeste percale rose des profondeurs du carton et la soumit, non sans quelque embarras, à l'examen de cousine Françoise. Celle-ci avait été couturière autrefois, elle en gardait la vocation. « Fort bien, » dit-elle lorsque Claire eut passé sa robe pour l'essayer. « Quand je dis fort bien, je veux dire fort mal. Comme je le prévoyais, il faudra reprendre partout. La garniture de dentelle est faite pour un corsage ouvert en carré et à manches courtes. Je vais tailler, tandis que la cousine Madeleine fera un point par-ci, un point par-là, sous ma direction. Coiffez-vous en attendant, ma petite, et fiez-vous à moi. J'ai habillé pendant 15 ans toutes les belles dames de la ville. Vous serez jolie comme un cœur. » Claire n'était pas trop rassurée. Quand elle entendit les grands ciseaux tailler l'étoffe avec un bruit sec, elle se boucha les oreilles et fit mentalement le sacrifice de sa robe. « Ne me décolletez pas trop » s'écria-t-elle d'un ton suppliant, tout en brossant ses longs cheveux cendrés. « Je n'ai jamais porté que des robes montantes. Si l'on me regarde, j'en mourrai de honte. »« On vous regardera, ma chère, et vous en serez bien aise. » fit en riant la cousine Françoise. Madeleine se sentait un peu confuse. Elle n'avait jamais prodigué les compliments à Claire et ne goûtait qu'à moitié ces allusions constantes de la cousine aux conquêtes que la jeune fille ne manquerait pas de faire. Lorsque Claire, enfin, debout devant un grand miroir qu'éclairaient deux hautes lampes, vit une charmante image se dresser en face d'elle, une taille gracieuse, serrée dans un corsage rose un peu étroit, il faut l'avouer, un joli cou blanc doucement caressé par un flot de dentelle où se noyait une touffe d'œillets panachés, une fine tête blonde, des yeux qui riaient, elle en fut éblouie et se détourna en murmurant « Mais ce n'est pas moi !» Madeleine souriait de son extase. « Eh bien, franchement, » dit Claire en relevant sa jupe du bout des doigts pour mieux voir son joli bas rose, « je suis bien plus, comment dirais-je, bien plus agréable à voir que Mademoiselle Molaire. » « Je crois bien, » déclara la cousine Françoise en se campant devant son œuvre, les deux poings sur les hanches. « 100 fois plus jolie, je le déclare. Je donnerai quelque chose pour voir votre entrée, ma petite Cendrillon. » « Assez, » interrompit Madeleine, « vous allez lui tourner la tête, cousine Françoise. »« Pas de danger, elle est sage, je le lis dans ses yeux. Jouez un peu de l'éventail, petite, que je vois si vous vous en servez correctement. »« Ne le tenez pas comme une cuillère, c'est campagnard ces manières-là. »« Bon, vous y êtes. Comme elle prend facilement le grand chic, voyez-vous ça, cousine. Elle ferait une marquise en moins d'une semaine. » « Plus jolie que Mademoiselle Molaire. Ça saute aux yeux, pardine. Et j'espère que le cousin Luc sera de mon avis, ne fût-ce que pour montrer son bon goût, bien qu'il soit épris jusqu'aux oreilles de la fille de son patron. Ça se dit dans le quartier depuis quelques jours, mais je n'en crois rien. Et vous, cousine Madeleine ?» Claire n'ouvrit pas la bouche, ne fit pas un geste. Elle resta devant le miroir, indifférente en apparence. Mais tout ce rose dont elle était vêtue, ses dentelles, ses fleurs, ce gai désordre dont la chambre était pleine, lui parurent soudain une ironie pénible dont elle aurait voulu se détourner. Cependant, la cousine Françoise continuait son babil. « Ce n'est pas qu'il ne la vaille bien, cette élégante Pauline Molaire. Votre jeune homme a l'air très distingué, cousine Madeleine. On dirait qu'il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ses manières sont superlatives. » Quand il offre son bras à Mademoiselle Molaire, c'est une chose à voir, tant il y met de chic et sans avoir l'air d'y penser encore. Vous savez qu'ils patinent tous les soirs ensemble. Je les ai vus une ou deux fois. Ils semblent faits l'un pour l'autre. Ça part du même pied, ça se penche, ça se balance, ça tourne avec une grâce. Chacun les admire. C'est ce qui a fait courir des bruits de mariage. On ne voit jamais l'un sans l'autre et le gros papa les regarde de loin d'un air enchanté. » Madeleine se tourna vers sa filleule avec inquiétude. Claire chiffonnait distraitement le nœud de sa ceinture. Elle baissait les yeux. Sa rougeur seule trahissait son émotion. « Il me paraît, » dit Madeleine d'un ton calme, « qu'on fait bien des commérages en ville. Mon fils connaît son devoir. » Il ne courtiserait pas la fille de son patron sans nous en avoir parlé d'abord, Et si M. Moller leur permet d'être ensemble, cela prouve simplement la confiance qu'il porte à Luc. Mon fils est un simple commis, Mademoiselle Moller est une riche demoiselle. Il y a une grande distance entre eux au point de vue du monde. D'ailleurs, bien d'autres raisons les sépareraient. Cousine Françoise, rendez-nous le service de démentir ces cancans toutes les fois que vous en aurez l'occasion. » Madeleine s'adressait à Claire bien plus tôt qu'à sa cousine. Elle tâchait de rassurer la jeune fille par ses arguments. « Ne crois pas un mot de toutes ces sottises, » murmura-t-elle en lui caressant affectueusement les cheveux. « Et confiance en Luc. » Avoir confiance malgré tout, Claire se l'était promis la veille. Quand Luc avait dit d'une voix étrangement troublée « Je n'aime que toi, je te le montrerai bien », n'était-il donc qu'un vulgaire trompeur? Jouait-il un double jeu entre Claire et Pauline? Non, son accent était trop sincère, son émotion trop évidente. Mais Luc était flottant sans doute. Son cœur hésitait. Des émotions aussi violentes que fugitives l'entraînaient tantôt à droite, tantôt à gauche, comme des aimants contraires. C'était là la clé de l'énigme, le secret de ces brusques changements d'humeur, de ces accès de froideur puis de tendresse qui étonnaient Claire et la déconcertaient. Pourtant, il lui avait dit « Je n'aime que toi ». Elle en revenait toujours là. 7h30 frappèrent à la pendule. On entendit dans la rue le bruit d'une voiture et, tout après, le pas de Luc dans l'escalier. La porte s'ouvrit. Le jeune homme salua gaiement toute la compagnie. « Ah, ma petite Claire, laisse-moi te féliciter !» s'écria-t-il. « Tu es bien la plus fraîche églantine qui ait jamais fleuri dans les bois. Tu auras un succès fou, c'est moi qui te le prédis. Tous mes camarades en perdront la tête et moi, je serai jaloux comme un tigre. » Elle s'efforça de sourire. « L'honneur de ma toilette te revient, » dit-elle. « N'est-ce pas que j'ai bien choisi? Qu'as-tu dit en trouvant l'éventail? Et que me dis-tu maintenant pour ma peine ?» « Écoute, je veux être payé. Laisse-moi te donner un baiser de cousin, sur la joue, si cela t'effarouche moins, et en présence des matrones. C'est accordé ?» Claire lui tendit sa joue, un peu confuse, mais bien heureuse. Pouvait-elle douter de lui maintenant ? En 7 minutes, Dalphon Renaud sonnait à la porte. Il venait chercher Madeleine. « Êtes-vous prête, mesdames ? S'écria Luc. « La voiture vous attend. » « Descendons vite !» Sa mère et sa cousine s'enveloppèrent de leur châle. Dans son enthousiasme pour Claire, la bonne dame Françoise courut prendre dans une commode sa mantille de guipure noire et l'arrangea pittoresquement sur les cheveux de la jeune fille. « C'est la dernière touche » s'écria-t-elle. « Maintenant, partez et amusez-vous bien. Cousine Madeleine, vous qui ne dansez pas, ayez soin de regarder attentivement les toilettes pour me les décrire. » Claire monta en voiture toute troublée, craignant à chaque minute de voir ce beau rêve se dissiper comme un nuage. Il lui semblait être une princesse d'un conte de fées, appuyée au bras de son prince charmant. Chaque fois qu'elle regardait sa robe rose, qu'elle sentait contre sa joue le doux frôlement de ses dentelles, l'impression de vivre dans un songe revenait plus intense et elle n'osait faire un mouvement de peur de se réveiller. « Je suis Cendrillon, » dit-elle en souriant à son cousin. « On m'est venu prendre dans ma cuisine pour me conduire au bal en carrosse. Mais ne va pas te sauver à minuit en me laissant ta pantoufle pour toute consolation, » dit-il. La voiture s'arrêtait justement à l'entrée de la cour. Un long tapis en sparterie était déroulé de la grille jusqu'à la porte de l'entrepôt. Madeleine et Claire descendirent, chacune au bras de son cavalier, et s'avancèrent le long de cet étroit chemin que bordaient de chaque côté des sapinets poudrés de neige plantés dans des caisses vertes garnies de mousse. Deux grands candélabres à gaz éclairaient toute la cour. La niche de lion était vide. On avait craint que ce trop fidèle veilleur ne fît une réception bruyante aux invités et on venait de l'emmener à la campagne pour la nuit. Comme l'entrepôt était vaste, on avait pu y ménager une sorte d'antichambre séparée du reste de la salle par des portières en andrinople rouge. C'était là que les dames laissaient leurs châles et les messieurs leurs pardessus. Claire, d'un seul petit mouvement ondoyant, secoua les volants de sa robe, donna un coup d'œil au miroir et vit que tout était en ordre. Puis elle lissa du bout des doigts les bandeaux de Madeleine. « Nous sommes prêtes, » dit-elle à Luc. Le cœur lui battait bien fort. Cependant, elle saisit son éventail en souriant, comme un soldat qui pointe sa baïonnette vers la redoute qu'il faut emporter d'assaut. La grande portière s'écarta devant eux. Une odeur forestière de branches de sapin fraîchement coupées passa comme un coup de vent dans les bois. Claire en fut toute ranimée. « Comme cela sent bon, c'est le parfum de la rosière, » dit-elle tout bas à Madeleine. Des guirlandes d'un vert foncé encadraient toutes les fenêtres de la grande salle. Dans chaque trumeau, un énorme bouquet fait de lierre, de houx et de grands roseaux à panaches d'un jaune pâle sortait d'une haute en fin osier accrochée à la paroi. C'était une décoration fort simple mais très gaie. Des torsades de lierre s'accrochaient aux branches des lustres et couraient partout en rinceaux. Une banquette tendue de serge verte faisait le tour de la vaste pièce dont on avait éloigné le mobilier encombrant. Les tiroirs et les casiers qui couvraient les parois se cachaient à demi sous la verdure. Cependant, ici et là, une plaque d'émail blanc portant une inscription en lettres noires, « Lime, Burin » se laissait voir à travers les branches comme un grand œil étonné et augmentait l'effet original de l'ensemble. La grande pendule ronde fixée à la corniche marquait 8h15. M. Moller, par une attention courtoise, en avait lui-même arrêté le battant. Elle marquerait 8h15 jusqu'au matin. Un joyeux bourdonnement de voix que dominait le timbre bruyant du patron cessa tout à coup lorsque Luc entra, la tête haute, conduisant sa cousine. Le silence dura 2 ou 3 secondes, puis le chuchotement reprit de plus belle. « Qui est cette jolie fille? Une cousine d'Offrand, dites-vous? Est-il vénard, ce garçon-là? » M. Moller fit 2 pas à la rencontre de son jeune employé et salua Claire avec une politesse un peu froide. « Madame Moller et ma fille sont là-bas, dit-il. Le carnet de Pauline se remplit. Allez voir si elle vous y a gardé une place. » « Mon carnet à moi est encore vide, » dit Claire en s'appuyant un peu plus sur le bras de son cousin. « Faut-il t'inscrire, Luc ?»«
Je crois bien. Garde-moi les valses, veux-tu »«
Est-ce que Mademoiselle Moller ne valse pas aussi bien qu'elle patine ?» Cette question prit Luc au dépourvu. Il rougit, ce qui ne manqua pas de l'irriter. « Je n'ai jamais dansé avec Mademoiselle Moller, » répondit-il froidement. Pauline était presque jolie ce soir-là. Sa toilette, qu'elle avait choisie très simple, par égard pour ses invités, lui allait à ravir. Se sachant trop pâle, elle portait de préférence ces teintes vagues et douces qui flottent entre le rose, le bleu et le jonquille. Sa robe de bal, garnie de dentelles vaporeuses, avait la nuance délicate des roses thées à demi écloses. Ses cheveux blonds étaient relevés par 2 longues épingles de corail rose. Aimable et gracieuse, la jeune fille accueillait les hôtes de son père avec un sourire, tout en jouant négligemment de l'éventail. « Toujours le dernier au plaisir, » fit-elle quand Luc s'inclina pour la saluer. « Mademoiselle, vous avez là un cousin bien extraordinaire. On assure qu'il n'est jamais arrivé trop tard à son travail, mais quand il s'agit tout bonnement de s'amuser, il est moins ponctuel. » Elle avait posé sur la chaise voisine un fort beau bouquet de camélias blancs et d'azalées légèrement teintées de rose lilas. Elle le prit et, se tournant vers Luc, « Vous avez eu très bon goût, » dit-elle en souriant. Il ne l'entendit pas car les premières notes de l'orchestre éclatèrent tout à coup. Mais Claire avait compris, ou du moins cru comprendre. En réalité, ce bouquet était offert à Pauline par tous les employés de son père comme un hommage annuel et cette fois-ci, Luc Offrand avait été chargé de le lui présenter. Claire ne pouvait deviner cela. Elle baissa ses yeux subitement remplis de larmes sur les pauvres œillets qu'il lui avait donnés aussi, puis tout à coup se redressa. « Je jouerai le même jeu, » se dit-elle. Après un tour de salle, elle demanda à Luc de lui présenter ses amis. Il le fit très volontiers et Claire se trouva bientôt entourée d'admirateurs. Son carnet se remplit en un clin d'œil. Elle accueillait les compliments d'un air parfaitement aisé, bien que parfois une vive rougeur empourprât ses joues. Elle causait avec animation, riait derrière son éventail,
promenant autour d'elle ses yeux brillants qui, tour à tour, cherchaient Luc et l'évitaient. Elle valsait éperdument avec quelques beaux garçons qu'elle avait choisis exprès pour faire pièce à son cousin et ne revenait à sa place qu'aux derniers accords de la musique. « Tu te fatigueras, » lui dit Madeleine, qui la suivait des yeux avec étonnement. « Repose-toi un peu. »« Me reposer ? Et que diraient mes danseurs ? J'ai de la besogne à les satisfaire tous. »« Te voilà, Luc. Que vas-tu dire ? Je n'ai plus le moindre coin vacant pour toi. » J'ai donné toutes les valses. Regarde. » Elle lui tendait la mince tablette d'ivoire suspendue à son éventail. Si tu veux, tu partageras une polka avec monsieur. Bon, j'ai oublié son nom. Là-bas, ce grand brun. Il te cédera le second tour. Grand merci, répondit Luc vexé en tournant sur ses talons. Claire sourit amèrement. Mademoiselle Moller le consolera, pensa-t-elle. « Je l'ai piqué, mais ces coups d'épingle, ça fait plus de mal à donner qu'à recevoir. » Luc, en effet, se dirigea vers Pauline, qui le traita moins cruellement et le fit asseoir à côté d'elle. « Votre petite cousine a l'air de s'amuser, » dit-elle. « Quel feu, quel entrain! On voit qu'elle en est à son premier bal. Elle est très jolie, vous en doutez-vous seulement? C'est une mignonne petite rose. »« Il n'y a pas de rose sans épines, » murmura Luc. « Les épines sont sans doute représentées par ces jeunes messieurs qui la fêtent à qui mieux mieux. Vous êtes jaloux, monsieur Offrand ?» Elle se leva et prit le bras du jeune homme. « Je vous avais gardé cette valse, » dit-elle. « Ne soyez pas trop malheureux. » Pauline n'y mettait aucune coquetterie. Pour elle, ces petites flirtations, ébauchées entre deux coups d'éventail, étaient l'accessoire obligé d'une sauterie, au même titre que les glaces à la vanille et les macarons. Elle trouvait Luc assez bon danseur et moins fat que ses cavaliers ordinaires. Il l'intéressait, mais il n'était, après tout, que le commis de son père et Pauline avait d'autres visées. D'ailleurs, elle avait deviné sans peine le petit roman de Claire et n'eût voulu pour rien au monde en gâter le dénouement. Elle remarqua bien que Luc prononçait le nom de sa cousine avec une certaine amertume et que Claire, de son côté, affectait d'ignorer complètement son cousin. Elle crut à une petite pique d'amoureux et entreprit de les réconcilier. Les plateaux de rafraîchissement circulaient. Pauline s'empara d'une glace panachée, fort appétissante dans sa soucoupe de cristal, et la porta à Claire. Une place était vacante sur la banquette, à côté de la jeune fille. Pauline s'y assit et se mit à causer de mille choses d'un ton aimable, presque affectueux. Elle tenait son bouquet à la main, et de l'autre, écartait doucement les pétales de cire d'un beau camélia. « Vous avez là des fleurs magnifiques !» dit Claire, avec un léger tremblement dans la voix. « N'est-ce pas qu'elles sont belles ? Votre cousin les a choisies. On dirait qu'il connaît mes préférences. » Pauline imaginait que Claire devait savoir la provenance quasi officielle de ce bouquet. « À propos, continua-t-elle, j'ai une confession à vous faire. » Vous ne devineriez pas que j'ai un gros méfait sur la conscience depuis tantôt 6 mois. Votre cousin vous a-t-il raconté notre première rencontre? Il s'est montré alors le plus obstiné jeune homme du monde, refusant à mon père d'abord, à moi ensuite, une botte de muguet qu'il tenait à la main. Il vous l'avait dédiée. Du reste, je vous ai dit cela lors de notre promenade en bateau, le jour où vous ressembliez tant à une jolie petite chatte jalouse. Mais la confession de mon crime reste à faire. Je profitais d'un moment où il avait le dos tourné pour lui voler très adroitement son bouquet et jeter le mien à la place. Mon muguet ne vous en a rien dit à l'oreille? Qu'on me parle après cela du langage des fleurs. » Et Pauline se donna sur les doigts un petit coup d'éventail en guise de conclusion. « Me pardonnez-vous, » dit-elle enfin, surprise du silence de Claire, qui restait immobile, les yeux baissés, l'air sombre. « Ah !» dit Claire lentement, « vous m'avez volé bien autre chose. » Elle fixa sur Pauline un long regard de reproche, puis, s'étant levée, s'éloigna. Mademoiselle Moller, fort étonnée, haussa les épaules, autant que ses manières parfaites le lui permettaient. « Quelle mouche la pique !» se demanda-t-elle. S'imagine-t-elle, par hasard, que je convoite son beau cousin? Sans le regard tragique qu'elle m'a lancé, il ne me déplairait pas de jouer un rôle dans cette petite comédie à la Marivaux. Luc était fort excité, le manège capricieux de sa cousine le mettait hors de lui. « Elle veut que je fume de jalousie, » pensait-il. « Eh bien, non, je n'aurai pas l'air de m'en apercevoir seulement. Il y a bien d'autres jolies filles ici, à commencer par Mademoiselle Moller, qui ne me veut pas de mal. » Il ne manqua plus une danse et se monta la tête pour se persuader que Claire et ses caprices le laissaient indifférent. Pauline, un peu fatiguée, s'éventait languissamment. Elle était assise dans une embrasure de fenêtre garnie de lauriers roses et d'autres arbustes touffus qui en faisaient un cabinet de verdure. Ce feuillage sombre servait de repoussoir à son fin visage un peu rosé par l'excitation de la danse. Son bras blanc, dont on pouvait suivre le joli contour jusqu'au coude, s'allongeait sur les coussins rouges de la causeuse. Ses cheveux s'étaient dérangés. Leur poids entraînait l'épingle de corail rose qui lui frôlait maintenant le cou. La tête un peu renversée, son bouquet sur les genoux, les lèvres entr'ouvertes et souriantes, Pauline était moins correcte, mais plus charmante qu'à l'ordinaire. Comme Luc passait tout près, elle lui fit un petit signe auquel il obéit. « Causons un peu, dit-elle, je n'ai plus envie de danser. J'ai donné à chacun au moins un tour de salle, comme papa me l'avait recommandé. » J'ai dit quelque chose d'aimable à toutes les dames, jeunes ou vieilles, car maman m'a laissé toute la besogne. Il y a plus d'une heure qu'elle est montée chez elle, je suis un peu lasse de faire la maîtresse de maison. Oublions tous ces braves gens qui valsent sans nous de très grand cœur, imaginons que nous sommes à la campagne, dans une charmille fleurie comme au printemps. » Ce mot de « braves gens » par lequel elle désignait un peu dédaigneusement les invités de son père choqua l'oreille de Luc. Mais comme Pauline semblait le ranger lui-même dans une autre catégorie, il lui pardonna vite. Un groupe de messieurs d'âge respectable qui préféraient la conversation à la danse venait de s'arrêter devant le petit bosquet en masquant tout à fait l'entrée. Ils tournaient le dos à nos deux causeurs et discutaient d'un air animé quelques grosses questions de finances cantonales. « Au moins, dit Luc en reprenant le fil de leur entretien, vous avez lieu d'être satisfaite. Le bal est admirablement réussi et il n'y a qu'une voix pour vous proclamer la plus charmante maîtresse de maison. »« Vraiment, fit-elle avec nonchalance, et vous êtes du même avis ?» Elle montra dans un sourire ses jolies dents brillantes, mais rougit tout à coup, car le regard de Luc s'attachait sur elle avec une ardeur étrange. La griserie de leur soirée de patinage s'emparait de nouveau du jeune homme. Pauline lui apparut plus séduisante dans sa distinction et sa blancheur que sa cousine Claire, la petite fleur des bois. Il perdit la tête, se pencha vers Mademoiselle Moller avec un geste fou, lui saisit les deux mains et murmura « Pauline !»